En fin de semaine, c'était le Grand Prix de Hongrie du côté de la Formule 1. On sait qu'on a débuté depuis maintenant 3 semaines et jusqu'à maintenant, une saison qui est très intéressante. On sent une saison qui manquait peut-être un peu de préparation, mais en ce moment, c'est intéressant de voir qu'on a un Montréalais qui est capable de connaître de très bonnes performances sur les circuits de Formule 1, c'est Lance Stroll. On va aller en parler avec notre spécialiste de Formule 1, Jean-Michel Tremblay, qui est en bout de ligne. Salut Jean-Michel.
Hey, salut Pierre, comment ça va?
Ça va super bien, mais j'ose croire que ça va encore mieux pour Lance Stroll. Écoute, ça va bien pour lui puis Racing Point présentement, là.
Ben oui, depuis le début de la saison, c'est vraiment super intéressant de voir les progrès de Lance qui sont quand même super intéressants. Puis je me suis attardé un petit peu ce matin quand tu nous as mentionné qu'on allait bien sûr discuter de Lance. Donc juste revoir un petit peu les performances qui ont été faites durant les 3 premiers Grands Prix. Puis on voit quand même des améliorations qui sont quand même super intéressantes. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il faut le comparer bien sûr à son coéquipier Sergio Pérez. Puis si on regarde au fur et à mesure, on a juste 3 Grands Prix de fait, mais on voit vraiment une amélioration qui est notable. Si on prend juste par exemple au niveau des qualifications dans les 2 premiers Grands Prix, Lance s'est classé un petit peu en retrait là, bien sûr de son coéquipier, à part le deuxième, le Grand Prix de Styrie, mais là on s'entend que la séance de qualification sous la pluie c'était quand même quelque chose de spécial. Mais par contre, ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça nous a permis de découvrir que Lance Stroll semble avoir beaucoup de talent au niveau de la conduite sous la pluie. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Il n'y a pas une tonne de pilotes vraiment qui sont doués pour avoir une bonne conduite comme ça sous la pluie. Puis je pense que ça l'a bien fait paraître aussi au côté de son coéquipier Sergio Pérez. Au niveau des qualifs, le dernier Grand Prix, on est allé chercher une superbe 3e place. Donc, c'est vraiment vraiment intéressant pour ça. Puis au niveau de la course, on est quand même constant. 7e position. Ben, premier Grand Prix, malheureusement, on a dû abandonner problématique avec le moteur Mercedes. 2e Grand Prix, 7e place, tout juste derrière Sergio Pérez. Et là, ben, le Grand Prix qui s'est terminé hier dimanche, une belle 4e position pour Lance, compte tenu qu'il devait se battre contre les Mercedes et même contre la Red Bull de Max Verstappen. Je pense que c'était la meilleure position qu'il pouvait pas aller chercher.
Est-ce que pour lui, c'est important d'avoir des bonnes performances dans l'optique où, tu sais, il y en a plusieurs qui parlent de la prochaine écurie parce que Racing Point va devenir Aston Martin, tout ça. Son père qui investit dans l'équipe énormément, il y en a plusieurs qui s'en vont dire « Ouais, il est là parce que son père a de l'argent. » Et là, ben, il y a des rumeurs qui envoient Sébastien Vettel avec cette équipe-là. Plusieurs pensent que Perez, c'est lui qui va sauter dans tout le calcul. Donc, le père a vraiment la main longue, tu sais, a vraiment le bras long concernant son fils. Donc, si Lance Stroll est capable de prouver qu'il est un bon pilote, j'imagine que pour lui aussi, ça va mieux passer la transition vers Aston Martin et peut-être un partenariat avec Sébastien Vettel.
Ben, tout à fait. Là, c'est facile de dénigrer aussi le travail de Lance parce que son père est là, son père a de l'argent, mais reste que pour se rendre en Formule 1, ça prend une super licence. Ça prend aussi des victoires dans des championnats inférieurs, donc en Formule 2, partout où est-ce qu'il est allé, Lance a toujours bien performé. Puis oui, c'est sûr et certain que d'avoir un père qui est fortuné comme ça, ben ça aide. Là. Donc on a toujours les meilleurs préparateurs qui sont avec nous. On est toujours entouré des meilleures personnes. Et bien sûr, Monsieur Lawrence Stroll, le père de Lance, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais c'est quelqu'un aussi qui a sauvé cette écurie-là. Donc il a racheté Force India qui était presque en faillite, et maintenant qui a sauvé aussi la marque Aston Martin en devenant un des actionnaires majoritaires. Et c'est pour ça que l'année prochaine, l'écurie Racing Point va s'appeler Aston Martin. Mais c'est sûr et certain que le support financier du paternel est très, très, très important. Et Lance, il n'est pas là pour rien. Donc, juste rappeler aux gens où peut-être des fois, on va dénigrer peut-être un petit peu les performances, où on va juste regarder le classement sans chercher à comprendre comment s'est déroulée la course et tout. Donc, Lance, c'est quand même un pilote qui demande aussi à avoir de l'adaptation. On le voit présentement depuis le début de sa carrière. La problématique semble être au niveau des qualifications. Mais maintenant, avec la Racing Point de cette année, Lance semble plus à l'aise, donc vraiment d'aller chercher les bonnes performances. Sa 3e place le prouve à la qualification du dernier Grand Prix de Hongrie. Mais moi, je pense que c'est vraiment de bon augure, effectivement. Puis, le lien avec le père fait que c'est carrément impossible que Lance probablement là, puisse céder son baquet peut-être pour Sébastien Vettel dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais Lance, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être reconnu. Et comme on s'en mentionnait tout à l'heure hors d'onde, je pense que maintenant, le fait d'avoir un Québécois qui a des bonnes performances rehausse l'intérêt aussi des gens au Québec pour la Formule 1. Peut-être pas au point où est-ce qu'on en était avec Jacques Villeneuve et tout, mais c'est pas grave. Il faut que ça commence à quelque part. Je pense que c'est de bonne idée.
Ben effectivement, on parle de Québécois. Je sais que Nicolas Latifi, maintenant, est aussi un autre Québécois qui est en Formule 1, qui est, lui, pour l'écurie Williams. Peut-être un début un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a l'air d'un gars qui est vraiment en ajustement de la Formule 1 là, sur les circuits.
Oui, ben, il est en apprentissage, ça paraît. Puis d'autant plus que cette saison aussi, normalement, à ce temps-ci de l'année, on aura plusieurs grands prix quand même de compléter aussi. Donc, c'est sûr que là, pour lui, c'est beaucoup d'apprentissage en très peu de temps. Donc, on l'a vu en Autriche commettre aussi quelques erreurs, des sorties de piste, des têtes à queue. C'est quelque chose, je pense, qui est tout à fait normal quand on est en période d'apprentissage comme ça. Puis d'être avec Williams, je pense que c'est une bonne chose aussi pour lui parce qu'on va se dire que les attentes sont pas extrêmement élevées.
Ouais, pas de pression.
Aussi du côté de Williams, mais on s'entend que du côté de Latifi, on a une famille qui est quand même assez fortunée aussi avec les cafés Lavazza qui sont derrière lui aussi, qui sont quand même un gros commanditaire au niveau de Williams. Mais il faut lui laisser du temps. Il a connu énormément de succès en Formule 2, donc je verrais pas pourquoi il pourrait pas connaître du succès en Formule 1. C'est sûr que ce qui est peut-être un peu plus difficile pour lui, c'est d'être avec un coéquipier, un surdoué comme George Russell. On a vu avec un Williams qui est pas très compétitif depuis les trois premiers Grands Prix. Russell fait, je pense, des miracles avec cette voiture-là. Mais il faut juste lui laisser le temps. Même du côté de Williams, je pense pas que les attentes étaient énormément élevées avec Latifi cette année, mais je pense que c'est normal là, d'apprendre justement, de passer de la F2 à la Formule 1 sur ces circuits-là. C'est des voitures qui sont beaucoup plus performantes. Donc, des petites erreurs comme ça, je pense qu'on va en avoir encore là, sur le reste de la saison du côté de Latifi. Mais pour lui, c'est de l'apprentissage, c'est du bagage là, qu'on met en marche.
Jean-Michel, je veux revenir sur les bonnes performances de Lance Stroll. Pourquoi? C'est qu'on parle de Racing Point comme quoi c'est une Mercedes rose. Parce qu'on a copié énormément d'éléments de la Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. En ce moment, il y a des protêts même qui ont été émis par l'écurie Renault parce qu'on a certains questionnements concernant des composantes et des concepts sur la Racing Point. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé là, dans les deux dernières semaines.
Ouais, ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé justement avec l'écurie Racing Point? Ben on s'entend qu'avec le gain en performance qui a été fait cette année, là, ça suscite énormément de commentaires dans les paddocks, surtout des écuries de milieu de peloton là, qui devaient se battre justement avec Racing Point l'année passée. Et là, on dirait que Racing Point est passé devant tout ce monde-là. Donc, on est rendu vraiment presque la troisième écurie, là, si on peut dire ça comme ça, étant donné que Ferrari est peut-être pas le début de saison escompté. Je pense que on en discutera tout à l'heure. Mais c'est ça, vraiment, du côté de Racing Point, ça suscite énormément de discussions, puisque dès le premier regard, là, on voit juste le museau, le devant de la voiture qui est identique à celui de Mercedes. Fait que là, ben, les rumeurs sont parties à propos de ça. Il y a un protège qui est élevé, comme tu disais, à propos de Renault. Et du côté de Renault, on insiste beaucoup là, sur les photos qu'on a eu la chance de voir là, dans les différents articles qui sont parus sur les écopes de frein avant. Donc, on nous montre des images des écopes de frein de la Mercedes et aussi de ceux de la Racing Point. Puis, on allègue, en fait, qu'ils sont drôlement semblables, sinon identiques. C'est vrai, honnêtement, que quand on regarde ça à première vue d'un œil de quelqu'un qui connaît pas trop ça, on peut penser que c'est identique. C'est sûr que si on prend le temps de regarder, il y a peut-être quelques petites choses qui peuvent être différentes, mais c'est vraiment là-dessus qu'on veut insister du côté de Renault. Donc, il y a beaucoup d'écuries qui commencent à soulever des doutes concernant la légalité vraiment de cette voiture-là. Donc, même ce matin, il y avait encore des nouvelles. Là, je pense que c'est AlphaTauri aussi qui fait insister. C'est sur le fait que il y aurait peut-être eu, là, par exemple, des plans là, de la Mercedes qui auraient été vendus à Racing Point, mais ça, c'est totalement illégal. Puis du côté de Racing Point, on dit, écoutez, la FIA, on a des centaines de dessins qu'on peut vous prouver qui ont été dessinés, dans le fond, par nos concepteurs. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que Mercedes est la voiture dominante. C'est que je pense que s'inspirer des meilleurs, c'est peut-être pas quelque chose de mauvais non plus.
Ben non.
mais là, c'est sûr. Parce que les similitudes sont vraiment très, très grandes. Une à côté de l'autre, on dirait vraiment que c'est la même voiture. Donc là, à ce moment-là, ça va être à Racing Point de prouver qu'ils se sont très fortement inspirés, mais que c'est quand même leurs concepteurs qui ont designé les pièces. Donc, c'est vraiment là qu'on s'enligne dans le bras de fer avec la FIA, Renault et le Racing Point présent.
J'ai envie qu'on termine avec Ferrari parce que tu en as glissé un mot. Et cette écurie-là, pour moi, étant un gars de 31 ans qui suit la Formule 1 depuis les années 90, avec les dominations de Michael Schumacher, puis on parlait tout le temps de Ferrari, même Gilles Villeneuve, tout ça, puis Là, on dirait qu'on arrive en 2020. Malheureusement, on n'est pas capable de répéter le même genre de performance. Charles Leclerc, qui a été sur le podium au premier Grand Prix, de peine et de misère. Et après, ça a été les qualifs. Bon, les deux voitures, malheureusement, qui n'ont pas terminé l'avant-dernier Grand Prix, qui ont été éliminées pratiquement dans les premiers tours. Qu'est-ce qui se passe avec l'écurie Ferrari présentement pour un manque de performance?
Ben, de l'aveu même du directeur, M. Binotto, c'est le pire début de saison de Ferrari dans les 10 dernières années. Donc, on parle vraiment d'un... Ça part de deux choses. Premièrement, ça part de la motorisation. On se souvient que l'année passée, Ferrari était extrêmement dominant au niveau de la motorisation. Par contre, après des protèges qui ont été levés par des écuries et des études plus approfondies de la FIA, on s'est rendu compte que du côté de la motorisation de Ferrari, on avait exploité une partie du règlement ou une zone grise qui faisait qu'il pourrait avoir un avantage au niveau de la motorisation. Après ça, en fin d'année, il y a eu une enquête de la FIA, il y a eu une entente confidentielle qui a été conclue avec Ferrari sur, dans le fond, l'illégalité là, de certaines composantes du groupe motopropulseur. Et cette année, ben, je pense qu'on en voit les résultats. Et aussi, la conception de la voiture à la base qui semble avoir connu des ratés, donc au niveau de la conception des pièces aérodynamiques du châssis. Donc, ça part vraiment de là, le fait que Ferrari n'a pas de bonne performance cette année. On l'a vu au premier Grand Prix. Ensuite, il y avait des développements qui étaient prévus pour la Hongrie et on a voulu devancer ça, bien sûr, pour pas perdre la face. On a amené ça même au deuxième Grand Prix de la saison et même à ça, après Sébastien Vettel a dit que c'était pas le pas en avant qu'on espérait. Donc, vraiment des performances en demi-teinte. On a atteint le Q3, mais de peine et de misère, comme tu mentionnais. Puis on voit aussi Alfa Romeo, Haas, avec la motorisation Ferrari, ont énormément perdu en performance aussi cette année. Donc, je pense que le lien peut quand même être fait de ce côté-là. Écoutez, la voiture semble vraiment difficile à conduire. On avait Charles Leclerc en cette semaine au Grand Prix de Hongrie. Il dit, j'en arrache vraiment. Il n'y a aucune balance sur cette voiture-là. Je fais vraiment qu'est-ce que je peux. Sébastien Vettel devait se battre avec des McLaren, faire dépasser par des McLaren. C'est pas des choses auxquelles on est habitué du côté de Ferrari. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Racing Point est presque devenue la troisième écurie avec Mercedes qui sont pas mal tout seuls. Red Bull aussi qui semble avoir des difficultés avec une voiture extrêmement pointue, donc peut-être un peu de puissance aussi du côté du Honda. Et c'est pour ça que maintenant, on voit régulièrement Racing Point dans le top 6. Donc, la hiérarchie ressemble pas mal à ça cette année, mais pour Ferrari, c'est une catastrophe. Eux qui nous ont toujours habitués à avoir des voitures ultra-performantes et se battre pour la tête dans les dernières, presque dans les 20 dernières années.
Et sinon, prochain Grand Prix, c'est quand exactement? C'est à quel endroit?
C'est dans deux semaines, on se dirige du côté de Silverstone, encore une fois un deux Grands Prix en deux week-ends sur le même circuit, un peu comme l'Autriche. On a dû appeler le deuxième Grand Prix le Grand Prix de Styrie, donc parce qu'on peut pas avoir deux fois le même Grand Prix. Donc du côté de Silverstone, le premier, ça a été le Grand Prix du Royaume-Uni, et le deuxième, le Grand Prix du 70e anniversaire du championnat de Formule 1, parce que cette année, c'est justement, ça fait 70 ans que le premier championnat de Formule 1 a été couru. Donc, on se dirige là dans deux semaines, une pause de deux semaines qui va faire du bien, je pense, à tous les mécaniciens, parce que trois Grands Prix en trois week-ends, c'est très, très, très exigeant, surtout du côté des mécaniciens. On a pu voir en fin de semaine chez Red Bull, on a fait beaucoup d'heures supplémentaires. On a réussi à remettre Max Verstappen prêt pour le départ, même si il s'est ramassé dans les rails pendant le tour de formation. Donc, on s'est fait jouer, je pense, un petit tour avec la piste qui était humide et les pneus intermédiaires. Mais ça va faire vraiment du bien à tout le monde, cette pause de deux semaines-là. Même pour des gens comme chez Ferrari aussi, de faire un débriefing complet, de voir comment on peut se reprendre pour la suite des choses. Donc, ça va faire du bien, un petit deux semaines.
Et on va surveiller, bien entendu, Lance Stroll. Un gros merci, Jean-Michel.
Hey, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Jean-Michel Tremblay, notre spécialiste de Formule 1, ici sur les ondes du 95.7 Kick.